sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors, dans le déroulement de notre séance solennelle, il y a des figures imposées. Le président doit vous rendre compte des travaux de l'année. Et Alain Duhamel a magistralement lu la proclamation des prix. Le secrétaire perpétuel, lui, c'est une figure libre. Donc, il choisit son sujet. La parole est à Xavier Darcos.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs. L'obsédante actualité de notre pays, dont le président vous a rendu compte, comme celle du vaste monde, offre de multiples et vastes sujets de réflexion. Dès lors, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques n'a-t-il pas mieux à faire que de consacrer cette année son discours annuel à l'évocation du lointain Tacite ? Sa longue carrière de professeur de lettres classiques ne saurait servir d'excuse à une telle digression rétrospective. Et puis, oublierait-il que cette coupole n'est pas celle du Panthéon ? L'immortalité ici est décrétée d'avance, même pour un Tacite. Elle n'y est jamais conférée à titre posthume. J'aimerais vous persuader qu'il n'y a rien de suranné dans ce choix, en vous entraînant 19 siècles en arrière pour y glaner une première anecdote. Le 5 avril 1796 se tint la toute première séance publique de notre compagnie. Or, ce n'est pas un hasard si nos prédécesseurs se réunirent non dans ce palais, où l'Institut ne siégeait pas encore, mais de l'autre côté de la Seine, au Louvre, et pas n'importe où au Louvre, dans la Galerie des Antiques. Les premiers membres de l'Institut avaient souhaité inaugurer leurs fonctions, entourés des plus belles statues des anciens, de manière sans doute à s'y ressourcer, à s'inspirer de leur exemple, à retrouver leur grandeur. Le symbole était puissant sous la Première République. L'idée ne me paraît ni impertinente ni inopportune sous la Ve République. Chercher une nourriture intellectuelle dans les œuvres de l'Antiquité est une tradition humaniste qui, par bonheur, se perpétue au moins en ces lieux. Sans rien mépriser des écrivains d'aujourd'hui, nous nous obstinons à penser que les auteurs antiques nous aident, comme en tous les siècles passés, non seulement à déchiffrer le présent, mais aussi à résister aux opinions du moment pour renouer avec les valeurs essentielles et permanentes. Soit, me dira-t-on, mais encore, alors, pourquoi Tacite ? Pourquoi ne pas retenir pour ce discours Platon et son académie, Caton et sa morale, Cicéron et sa politique ? Oui, pourquoi Tacite ? Eh bien, je vais vous le dire. La première raison qui me vient à l'esprit pourrait vous paraître marginale. Elle ne l'est pas. Tacite et l'Académie des sciences morales et politiques ont eu dans le passé un adversaire commun. Napoléon. Napoléon à qui, c'est vrai, l'Institut de France doit de siéger dans ce palais et sous cette coupole. Mais Napoléon qui, en 1803, chassa les sciences morales et politiques de ce même institut, supprimant notre académie au motif que, décidément, on y cultivait trop la liberté, voire le persiflage. Or, Napoléon, qui admirait tant la Rome antique, détestait Tacite. Il l'a dit et répété maintes fois, y compris dans un entretien célèbre avec Goethe, au motif que Tacite était un exemple ambigu, incontrôlable, dont les sarcasmes sournois, les témoignages amers sapaient toute autorité. En réalité, l'empereur s'agaçait surtout, car ses adversaires puisaient souvent dans Tacite lorsqu'il s'agissait de donner un garant à leur propre récrimination. Le 29 janvier 1806, l'Institut se déplaça encore jusqu'aux Tuileries pour y offrir les félicitations au vainqueur d'Austerlitz. Napoléon remercia l'Institut et, relevant dans le compliment prononcé par le président une allusion à la postérité de l'empereur dans l'histoire humaine, il se mit à évoquer Tacite, le dénigreur des dynasties impériales. Puis Napoléon, s'adressant directement au secrétaire perpétuel de l'Académie française, l'engagea à écrire un essai où seraient réfutés tous les faux jugements de Tacite. La réponse du vénérable savant ne se fit pas attendre. « Sire, la renommée de Tacite est trop haute pour que nul écrivain puisse jamais penser à la rabaisser. » Cette réplique jeta un froid, et d'un bref signe à son chambellan, Napoléon congédia tout ce petit monde en habit vert. Mais la référence à Tacite continua de plus belle, puisqu'elle agaçait l'empereur, puisqu'elle irritait sa cible. Comme le montrent aussitôt les vers insurgés de Marie-Joseph Chénier, publiés peu après. Tacite, en trait de flamme, accuse nos séjons, et son nom prononcé fait pâlir les tyrans. Mal lui en prit, il fut aussitôt révoqué de ses fonctions d'inspecteur général. Chateaubriand vint donc prendre sa relève, en publiant peu après le célèbre article qui allait être fatal au journal qui le publiait, le Mercure. Lorsque tout tremble devant le tyran, et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron, entendez Napoléon, c'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Tacite, en effet, est né dans les premières années du règne de Néron, sans doute à Vaison-la-Romaine, dans une de ces familles provinciales de l'ordre équestre, depuis longtemps romanisée. Après des débuts brillants comme orateur à Rome, il est nommé sénateur par Vespasien. Au terme d'un cursus honorum très rapide et exemplaire, il est promis consul par Nerva, le vainqueur du tyran Domitien, et achève sa carrière aux côtés de Trajan. En une époque, dit-il, où on a le rare bonheur de pouvoir penser ce que l'on veut et de dire ce que l'on pense. Mais il aspirait à une seule gloire, celle d'être écrivain. Il commence par une vie d'Agricola, qui était son beau-père. Comme un académicien débute par l'éloge de son prédécesseur. Il compose ensuite un essai paradoxal sur la Germanie, puis le dialogue des orateurs, où il voit dans l'étiolement de l'art oratoire l'effet du déclin des libertés. Il s'impose enfin par les histoires qui relatent la violente crise des années 68 et 69 jusqu'au principat de Domitien et par les annales qui recouvrent la période précédente, celle du Julio-Claudien, entre la mort d'Auguste en 14 et la mort de Néron en 68. Tacite est un auteur que je fréquente volontiers. Fasciné depuis longtemps par son acuité et par son intelligence pénétrante, je m'inscris dans le sillage de Sainte-Beuve qui observait « Tacite vous parle d'une langue si rapide, si forte, si poignante, qu'il vous enlève, vous tire à lui, vous force de penser comme lui. » Sceptique sur les individus, rarement essentiels ou décisifs par mégarde, il distingue les motivations, nobles ou sordides. Il s'interroge sur les destins des êtres, sur l'avenir de l'Empire. Il s'interroge aussi sur les calculs et les manœuvres qu'il perce à jour. Il immortalise quelques héros, sorte de saints laïcs, souvent écrasés par le hasard ou par la nécessité politique. Il sympathise vaguement avec les gens de peu, plèbes ou soldatesques, emportés par des volontés supérieures. Il voit les déviances et les folies que suscite l'attrait du pouvoir ou l'illusion de la puissance. Bref, je prends Tacite comme un penseur total. À tel point que, tout anachronisme mis à part, je n'hésite pas à voir en lui une sorte de précurseur de nos sciences morales et politiques et une référence pour notre Académie. Tacite, dans cette optique analytique et transversale, convoque la philosophie, la géographie et même la sociologie. Il s'inscrit dans la tradition pédagogique des jeunes romains, dont la formation se fonde sur l'étude de l'éloquence, mais qui, outre l'art oratoire, comprend la connaissance des littératures grecques et romaines, de l'histoire des institutions, où l'on puise non seulement des modèles rhétoriques, mais aussi des méthodes de pensée fondées sur la logique, la raison, la force de persuasion. Dans un passage du dialogue des orateurs, Tacite reprend à son compte cette formule de Cicéron. De même qu'on ensemence la terre qu'après l'avoir tournée et retournée plusieurs fois, de même l'orateur, avant d'aborder le forum, doit avoir fait des études variées et acquis des connaissances aussi étendues que possible. C'est au fond ce que nous appelons aujourd'hui la culture générale, ce qu'on appelle la culture générale dans les concours d'administration, par exemple. Soit dit en passant, cette culture générale mériterait d'être désignée par son vrai nom, les sciences morales et politiques, tout simplement. Un traducteur de Tacite, Durod de Lamalle, soulignait jadis cette qualité plurielle des anciens. Je cite « Chez nous, l'homme de guerre n'entend rien aux lois. L'homme de loi n'entend rien à la guerre. Toutes les connaissances sont éparses. À Rome, au contraire, le même homme avait été guerrier, avocat, magistrat, juge, financier, pontife. Aucun des objets dont traite l'histoire ne lui était étranger. Il trouvait dans ses seuls souvenirs, dans sa seule expérience, des connaissances sûres que nous autres, il nous faut aller mendier de côté et d'autre. » Durod de Lamalle écrivait ces lignes en 1793. 2 ans plus tard, la classe des sciences morales et politiques était créée au sein de l'Institut, précisément pour réunir toutes ces disciplines, non plus en une seule personne comme autant Tacite, mais dans une seule et unique compagnie. Cette qualité de Tacite est particulièrement manifeste dans son essai connu sur le titre « La Germanie », mais dont le titre latin « De moribus Germanorum » indique mieux le projet. Il s'agit de l'examen des mœurs des Germains et non de sciences morales. L'ouvrage commence par une étude de géographie physique et humaine dont la description des paysages n'est pas exclue, et il est vrai d'ailleurs de manière peu engageante. Pays affreux, ciel sombre, champs rebelles à la culture qui attristent le regard, dit Tacite. Regard de provençal, sans doute. Il décrit ensuite les mœurs des Germains. Et se démarquant de la tradition césarienne qui n'y voyait que des brutes épaisses, il avoue une forme d'estime, presque d'envie. Il loue chez ces supposés barbares l'honnêteté de la vie familiale, la gravité du mariage, le respect dû à la femme, l'éducation donnée aux enfants, la rareté des adultères, le culte des vertus naturelles. « Les bonnes mœurs y ont plus d'empire qu'ailleurs », écrit-il, avant de conclure à l'usage des Romains, « vous ne pourrez leur tenir tête qu'en revenant vous-même aux vertus de vos pères ». Avertissement prémonitoire qui ne fut pas entendu. Tacite, au fond, se dit que l'élite romaine, décadente, trop éloignée de l'état de nature, a perdu le sens des valeurs qu'on trouve encore chez les Romains, courageux, indomptables et loyaux. Autrement dit, il voit que sa patrie, quoique prospère, n'est plus sous-tendue par le désintéressement et la vertu qui permirent sa grandeur. On sait le ressort principal de cet abaissement aux yeux de Tacite, la servitude, le conformisme. Dans la sphère du pouvoir, on ne trouve que des flagorneurs, des dissimulateurs, des apeurés. Ils ont oublié que sans la liberté, aucune vertu n'est possible. Abordant les pratiques politiques, il a une formule d'une admirable concision. La naissance fait les rois, mais c'est le mérite qui fait les généraux. Et il ajoute, le roi n'a pas la puissance illimitée et leurs généraux par l'exemple plus que par l'autorité. Passage remarquable dont Montesquieu s'inspirera dans l'esprit des lois. Chez Tacite, l'approche morale prépare la réflexion politique et juridique. Les meilleures lois naissent des crimes d'autrui, écrit-il en paraphrasant l'adage romain « Les bonnes lois naissent des mauvaises mœurs ». Au livre 3 des Annales, il place une longue digression sur l'origine du droit romain qu'il culmina avec la loi des 12 tables, avant de décliner sous la multiplication des lois, fatras de décisions d'opportunité, au service de tel groupe, visant telle personne. Affaiblie, amiétée, la loi cessa d'être un frein efficace dans la société et précipita la fin de la République. Auguste et Tibère en eurent conscience, puis ils réagirent contre cette tendance, ils apaisèrent les désordres, mais ce fut au prix des réductions de la liberté, Tacite dit « le resserrement de nos chaînes ». Moins psychologue que Plutarque, moins cancanier que Suétone, Tacite évite les introspections compliquées. Il est lucide et donc amer. les éparses clartés de la vertu ne rendent que plus visible l'immense noirceur collective. Au demeurant, sa vocation n'est pas celle du prêcheur. Au sermon, il préfère le clinique décryptage des êtres et il s'y livre sans ménagement. Les princes et ceux qui les entourent, serviteurs et favoris, les ministres et leurs rivaux, les opposants, d'autant plus intéressants qu'ils sont rares, les hommes et les femmes du peuple, les soldats et leurs officiers, dans tous les cas, il excelle à tracer des portraits et analyser des conduites. Et ce n'est pas sans raison que Pierre Grimal a rapproché Tacite de La Rochefoucauld. Les personnages sont dépeints dans une lumière crue, avec une vérité cruelle. Même l'âme des foules, brutale, épouvante, est saisie dans ses pulsions les plus intimes. On a parfois prétendu cependant que Tacite n'avait que peu de goût pour la philosophie, à cause d'une phrase malheureuse de l'Avride Agricola. Racontant la jeunesse de son futur beau-père, il écrit « Celui-ci s'était adonné à l'étude de la philosophie, beaucoup plus qu'il n'est permis, à un Romain et de surcroît à un sénateur. » Mais depuis le bel ouvrage de notre confrère des inscriptions et belles-lettres, Alain Michel, nous mesurons toute l'importance de la philosophie, et spécialement du stoïcisme, dans l'œuvre de Tacite. Le stoïcien distingue les apparences qu'imposent les devoirs sociaux et la sauvegarde de l'estime de soi et du libre arbitre. Il consent à servir l'État tout en se gardant sa dignité et son identité. La philosophie devient alors le refuge des âmes libres face à la tyrannie. Thrasea Epaitus, un de ces héros en qui Tacite voit la vertu même, renonça à siéger au Sénat lorsqu'il apprit que Néron avait assassiné Agrippine, sa propre mère. Thrasea ne supportait pas l'idée que sa seule présence, même silencieuse, au Sénat puisse passer pour un consentement implicite à un tel parricide. Sa disgrâce fut immédiate. Il s'installa dans ses jardins avec ses amis, engagea une conversation socratique, jusqu'au moment où un questeur vint lui signifier l'ordre de se suicider. Habile dans ton domaine, Tacite avait-il enfin quelques compétences en économie et en finance ? L'affirmer serait excessif. On trouve dans ses œuvres des références aux questions monétaires ainsi qu'une conscience très vive et très romaine de l'importance des routes, des aqueducs, des équipements divers, ce que nous appelons l'aménagement du territoire. On rencontre aussi dans les annales cette histoire bouffonne. Un homme, convaincu sur la foi d'un songe d'avoir découvert le lieu où la reine Didon avait caché ses trésors, vint offrir cette information exclusive à Néron, qui se laissa persuader. Comptant sur le pactole miraculeux et fabuleux dont il allait s'emparer, l'empereur se mit aussitôt à faire des dépenses inconsidérées avec l'argent de l'État. En sorte, dit finement Tacite, que l'attente de la fortune devint une des causes de la misère publique. On fit ensuite des fouilles immenses à l'endroit indiqué par l'énergumène, on n'y trouva rien, le scandale éclata, doublant la crise financière d'une crise morale, en entendant la crise politique. Pour l'éviter, le Sénat en fut réduit à détourner l'attention publique en attribuant à Néron un concours d'éloquence et de chant. Rassurons-nous, de telles mésaventures, nous dirions de telles affaires, sont tout à fait inimaginables de nos jours. Souvent indigné par la corruption ou la servilité des hommes, Tacite n'est pas un révolutionnaire. Il souhaite simplement que les personnalités les plus honnêtes soient écoutées et que la raison gouverne. C'est à cette lumière qu'il faut le lire. Montaigne, à juste titre, voyait dans les annales une pépinière de discours éthiques et politiques, ou même une école pour ceux qui tiennent rang au maniement du monde. Mais une histoire, oratoire dans sa forme et morale dans son but, peut-elle être fiable ? En un mot, Tacite fut-il un bon historien, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, au service d'une histoire connaissance, et non d'une histoire tribunal ? Ce serait beaucoup demander à un homme de l'Antiquité. Tacite a parfois été pris en flagrant délit de manipulation des sources. Dans les annales, il cite le discours de l'empereur Claude. Or, par chance pour nous, mais par malheur pour Tacite, le texte authentique du discours a été retrouvé, ce sont les tables claudiennes de Lyon, et la comparaison des deux textes est sans pitié pour l'historien. Toutefois, à y regarder de près, Tacite est beaucoup plus objectif que la plupart des autres historiens romains, alors même qu'il traite d'événements très récents, dont certains témoins vivent encore à l'époque où il écrit. Racontant les temps de Néron sous le règne éclairé de Trajan, Tacite est dans la situation d'un guizot ou d'un minier, évoquant les sans-culottes. Or, malgré sa haine de Néron, il mentionne avec éloge les bonnes lois ou les sages mesures qu'il a pu prendre. Plus profond, plus rigoureux, moins adepte de commérage que Suétone, Tacite se méfie des rumeurs. Prenons l'exemple célèbre de l'incendie de Rome en 64 et des accusations du peuple contre Néron. Les premiers écrivains qui en parlent, Pline l'Ancien notamment, n'hésitent pas à désigner Néron comme l'incendiaire, et Suétone en est tout à fait convaincu. Tacite, lui, le pourfendeur des empereurs, se contente de dire qu'on ne sait pas si l'incendie est dû au hasard ou à un crime du prince. Il ne se prononce pas davantage à propos des petits-enfants d'Auguste qui moururent si vite, si opportunément et si jeunes. Peut-être, dit-il, leur fin fut-il hâtée par le destin ou par le crime de Livie, à tel point qu'on sent parfois Tacite malheureux de ne pouvoir trancher une question historique faute de certitude. « Adeo maxima quaeca ambigua sunt », dit-il, « les plus grands événements restent toujours douteux ». Cette prudence de Ben Alloy, bien des historiens modernes ont dû l'imiter. L'honnêteté intellectuelle est aussi une habilité, car le récit factuel atteint d'autant mieux sa cible qu'il est entouré de précautions. Dans les premières lignes des annales, Tacite se donne pour mission d'écrire une histoire de l'Empire romain, sine ira et studio, sans animosité ni flatterie, sans amour et sans haine. On ne saurait trop l'en louer. Géographe, ethnographe, juriste, philosophe, psychologue, moraliste, historien, écrivain hors pair, homme d'études en même temps comme d'action et d'influence, serviteur loyal de l'État et néanmoins penseur indépendant, mesdames et messieurs, Tacite aurait été le candidat idéal pour siéger à l'Académie des sciences morales et politiques. Ah, la vérité, il ajoutait une autre compétence qui est chère à notre Académie. Chacune des disciplines qu'il a pratiquées n'avait de valeur qu'associée aux autres et non isolément. Chez Tacite, ce faisceau de connaissances s'ordonne autour d'un axe allant de la civilisation, l'humanitas des Romains, à la citoyenneté, la civitas. Notre temps a souvent le mot citoyen à la bouche, il a curieusement d'ailleurs transformé en adjectif, par oubli parfois, je le crains, de sa substance, il n'est pas certain que le citoyen et le civique se recouvrent complètement. Mais Tacite considère l'union des citoyens comme la clé de voûte de la vertu romaine. Cette union repose sur la fides, la foi publique, et sur la pietas privée, les deux formes de la même loyauté, ce sont des vertus de cohérence. Quand les princes ne montrent plus l'exemple, les citoyens oublient leur devoir civique, le poisson pourrit par la tête. Il en résulte une dilution du lien social qui menace cette unité tant désirée et dont la romanité a porté la promesse au monde. Nous touchons là le principal intérêt de Tacite, son idée de la citoyenneté, et en même temps, le principal reproche qu'on lui fait, son pessimisme. On ne peut nier que la tonalité tragique domine son récit historique. Meurtre, exécution, guerre civile, trahison se succèdent et même se mêlent. Tacite avait 12 ans lorsque Rome bascula dans l'anarchie la plus sanglante à la mort de Néron. Il en avait 30 lorsque Domitien sombra dans le délire paranoïaque. Face au chaos, Tacite incarne alors la gravité romaine. Certains commentateurs en ont même rajouté, tel Chateaubriand, qui se compare évidemment à Tacite, écrivant les annales des anciennes révolutions, au bruit des révolutions nouvelles, prenant pour table dans l'édifice croulant la pierre tombée à nos pieds, en attendant celle qui devait écraser nos têtes. Mais c'est faire dire à Tacite ce que seul Chateaubriand formule et pense. Loin de se complaire dans le pessimisme, Tacite veut tirer les leçons de l'histoire afin d'épargner l'avenir des errements du passé. Il n'est pas décliniste, nous dirions aujourd'hui, encore moins défaitiste. Il est agi par un sursaut moral. Lamartine disait « Sa sensibilité est plus que de l'émotion, c'est de la pitié. Ses jugements sont plus que de la vengeance, c'est de la justice. Son indignation, c'est plus que de la colère, c'est de la vertu. » Sceptique, assurément, Tacite l'est aussi à l'égard de son propre scepticisme. Il doute de son doute, ce qui ouvre la voie à l'espérance. Rien ne l'exprime mieux que les derniers mots du livre 13 des Annales, celui du premier meurtre de Néron. Il raconte que cette année-là, funeste présage, le vieux figuier du Comitium, qui avait, sans doute, abrité l'enfance de Romulus et Rémus, se dessécha et perdit ses branches. Mais jusqu'au moment, conclut-il, où l'on vit pousser de nouveaux rejetons. La gravité de Tacite est donc modérée par sa foi dans le destin de Rome, mais aussi par son ironie. On a tout dit de son style inimitable, art de la sentence et de la synthèse, prédilection pour le raccourci, pour la rupture syntaxique, formule étincelante, clausule cinglante. Tout en demi-teinte et en allusion fine, l'ironie est dans les formules qui touchent. Exemple, Vitellius promettait ses biens personnels et prodiguait ceux d'autrui. L'ironie tragique permet à l'opprimé de braver la mort et d'avoir le dernier mot sur son persécuteur et devant l'histoire. Au sénateur qui devait l'exécuter, le bourreau demande « Maintiens ta tête ferme. Veille plutôt à ce que ta main soit plus ferme encore », lui rétorque le sénateur. Tacite manie surtout son humour noir pour moquer la veulerie des courtisans, comme ce sénateur gaffeur qui avait commis un impair en présence du sombre Tibère. Il le poursuit, après la séance, jusqu'au Palatin, implore son pardon, se prosterne sur son passage, saisit chez eux pour l'embrasser, tant et si bien que Tibère perd l'équilibre et s'effondre lourdement sur le sol. Comment mieux montrer que le renoncement d'élite à sa propre dignité n'interrompt pas la tyrannie mais la nourrit, et que la vertu recule lorsqu'on gagne plus à flatter qu'à convaincre. L'ironie est un art de garder ses distances. Pour l'historien, c'est le manifeste de sa liberté. Pas de vertu utile sans liberté. Nous l'avons dit, telle est la leçon intemporelle de Tacite. C'est ce qu'avait compris Camille Desmoulins pendant la Grande Terreur. Dans le troisième numéro du Vieux Cordelier, il évoqua Tacite et, je cite, « ce fleuve de sang, cet égout de corruption et d'immondice qui collait perpétuellement à Rome pendant le règne des Césars ». Robespierre se sentit visé. Aussitôt, le numéro fut brûlé aux Jacobins. Desmoulins renouvela ses allusions à Tacite dans les numéros suivants. Au septième numéro, il fut guillotiné. Chaque époque allouait ou critiquait Tacite en fonction de ses propres attentes ou selon son idéologie. Les courtisans du grand siècle y appréciaient sa description des cours, les classiques, la peinture de l'homme éternel, les révolutionnaires, l'esprit de la liberté. Au contraire, le XIXe siècle, bonapartiste lui a reproché sa malveillance à l'égard du despotisme éclairé. Le XXe siècle, marxiste d'oublier la plèbe, l'économie, la lutte des classes, peut-être bientôt notre XXIe siècle lui reprochera de ne pas avoir entrevu la théorie des genres. Mais enfin, pourquoi lire Tacite aujourd'hui? Pourquoi prendre exemple sur un pourfendeur des despotes, nous qui vivons en démocratie, qui sommes à l'abri des Nérons? Je réponds qu'il est plus que jamais nécessaire de le faire. Nous croyons que la chute des totalitarismes et la déconfiture du marxisme ont fermé le banc des idéologies. Rien n'est plus faux. Les idéologues du jour peuvent avoir d'autres sophismes que ceux d'hier, ils n'ont pas d'autres buts, ni d'autres méthodes. Ils se répandent désormais volontiers sur l'Internet, s'emparer du pouvoir intellectuel, dicter ses dogmes, faire passer toute contradiction pour une haine coupable et pour un affreux pessimisme de réactionnaire. Lorsque le pouvoir politique et sa vulgate idéologique s'unissent, il faut de toute urgence relire Tacite, s'en nourrir, s'en abreuver, faire une cure d'intelligence et d'indépendance. Regina, rerum ratio, la parole est action, disait-on à Rome. Depuis sa fondation, notre Académie des sciences morales et politiques a pour vocation d'être l'aiguillon du débat public et la conseillère libre et désintéressée des pouvoirs publics. Elle honore la mission que la République lui a confiée et elle s'honore elle-même chaque fois qu'elle émet des avis contraires à l'opinion dominante ou même à la majorité démocratique. Elle l'a souvent fait dans son histoire. En 2008, l'Académie a voté un avis très hostile au projet de réforme constitutionnelle, alors même qu'un de ses membres, celui qui vous parle en ce moment, faisait partie du gouvernement. Cette même indépendance intellectuelle et politique nous a conduit cette année à demander qu'un patient débat accompagne la réforme du mariage et de l'adoption. Nous ne jugeons pas la valeur des avis de l'Académie aux suites que leur accordent les pouvoirs publics. Leur vrai mérite est d'accomplir notre vocation, qui n'a rien perdu de son actualité depuis ce jour d'avril 1796, où nos prédécesseurs se réunirent au Louvre parmi les statues grecques et romaines. Mesdames, messieurs, chers confrères, Tacite aux yeux de Racine est le plus grand peintre de l'Antiquité, mais Montaigne est plus perçant quand il écrit que Tacite est le plus propre à lire dans un état trouble et malade comme le nôtre présentement. Cet artiste, cet intellectuel, ce sociologue méritait qu'on réveillât ses mânes sous cette coupole. Je me plais à rêver, non seulement s'il était notre contemporain, Tacite siégerait évidemment dans notre académie, mais il trouverait de quoi décrire et raisonner de la même façon qu'il le fit en son temps. Penseur aux multiples compétences, contempteur des décadences, il reste un modèle intemporel. Voyez comment il rend compte, au premier livre des Annales, de l'avènement du sinistre Tibère. À Rome, consuls, sénateurs, chevaliers se ruèrent dans la servitude, ruere in servitium. Dans ce raccourci vengeur, Tacite a récapitulé la sordide pente d'une ambition qui a perdu la boussole. À cet homme donc, nul n'est besoin de dire « Entre ici, Publius, Cornelius, Tacitus », car jamais n'a cessé d'influer sur nous sa longue méditation sur le libre arbitre. Précieuse liberté que celle du savant au cœur de la cité, elle est sa raison d'être, mais elle est aussi la raison d'être, la doctrine et le mode d'action de notre académie. En prenant Tacite pour prétexte, j'ai voulu, vous l'avez saisi, devant vous, rappeler ce qui nous guide et ce qui justifie notre présence en ces lieux. Je vous remercie de votre attention.